J'ai le goût
à la place Versailles
de m'y promener.
G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there.
Chers clients, vous êtes encore ici, au rendez-vous, au Super Club Vidéo Gore, pour l'épisode numéro 5 de la saison 2. Je suis votre commis Steve.
Et je suis votre commis Steph. Merci d'être là encore une fois. C'est grâce à vous qu'on reste ouvert.
Oui, pas grâce aux gens. Ah non, faut pas en parler. Écoute, notre superbe émission aujourd'hui. Pas un, deux clients.
Mm-hmm. Deep Dreams Films qu'on va avoir en entrevue aujourd'hui. C'est très cool, ça.
Oui, oui, c'est un collectif, un duo de la Belgique. De la Belgique? Oui, de la Belgique. Ils viennent de Bruxelles. Bruxelles, Belgique, c'est ça? C'est là?
Pas la même affaire.
C'est pas la même chose. C'est pas grave. Parce qu'ils viennent de là, ils font des films. Il y en a un sur YouTube qui était écœurant, on va leur parler.
Oui.
Après?
Après, on a l'année de l'horreur 1978 avec notre ami Paul Lafont. Et son acolyte, cette série.
Christophe, ben en fait, moi, c'est
là,
ça.
C'est différent. Là.
Il y a comme une moulure différente à l'année de l'horreur. Ben hâte de vous parler de ça. Je pense que vous allez aimer la restructuration.
Il vient de faire un AVC. Là. On va appeler le gérant très bientôt. Puis en parlant d'AVC... Non, Steve, est-ce que ça goûte les toasts? Ça goûte-tu les toasts?
On y va aux toasts.
Oui, exact. On y va, on rentre. Steve, en parlant d'AVC, il va nous parler encore de ses films en série avec Children of the Bled End 5.
The Field of Terror.
Oui, of Terror. Faut dire « of terror ». Vas-y, Steve.
« If terror ».
Pas « if »,« of ».« Of terror ».
Et après 5 films, Stéphane, je t'annonce que je comprends un peu c'est quoi la patente qu'il y a dans les champs.
Ça a juste pris 5 films puis à peu près 10 ans.
C'est ça.
De
tout
continuité.
Tout moi, regardé quoi?
J'ai regardé un film de 1994. J'en ai parlé souvent, Steve. Hein? Les années 90, c'est pas ma décennie préférée. Il y a des bons films. Mais je préfère le mid to late 80s.
OK.
J'ai regardé Cemetery Man, un film de 94 cette semaine.
Oh, tout le monde connaît la pochette de Cemetery Man.
Et tout le monde connaît Anorak Broupi.
Salut les crottés! Beau job! Vous pensez qu'ils sont acquis? Puis je pense que je sais pourquoi. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas personne qui veut travailler au Super Club Vidéo Gore. Mais vous êtes encore perdu. En ce moment, j'ai 6 CV en attente dans Mal. Et je vous dis, si vous allez chercher les arrivages, vous allez probablement en trouver 6 autres dans bois. Alors, allez déballer tout de suite avant que je prenne 6 autres superstars!
6? Voyons non.
Ça a l'air que ces name tags-là sont exclusifs à Steve et Stéphane. Il n'y a pas de place pour personne d'autre ici.
Non.
Merci. Oui, j'ai failli l'échapper. Merci beaucoup, monsieur le drone. Les arrivages de la semaine, Steve.
J'ai descendu un étage trop bas.
Moi, j'ai la tête dure. J'ai un esprit de contradiction. OK, on va la mettre là, c'est correct.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là?
Ben, vas-y. Vas-y, je te laisse aller.
Ben,
c'est des choses.
La première chose, c'est quand même... C'est un volume ici. Je vais le sortir tout de suite. C'est un livre qui s'appelle Wrestling with Pixels. Fait que ça, c'est un livre qui fait, dans le fond, la recollection de tous les jeux de lutte de tous les temps. C'est tout un document. Ça, là, c'est quelque chose que je crois que n'importe quel fan de jeux de lutte va triper en salle. Là, on commence loin, là. Les premiers jeux de la NES comme Pro Wrestling, WrestleMania, qui est à chier raide.
Y a-tu WrestleMania 2000, là?
Y a WrestleMania 2000.
Ça, c'était écœurant.
Mais c'était pas aussi bon que No Mercy, par exemple. No Mercy, qui est juste après WrestleMania 2000, à mon avis, le plafond a été atteint.
Mais No Mercy, c'est pas WCW?
Ça, c'est Revenge.
Revenge.
Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis tu sais, juste avoir l'épaisseur du livre là-dedans, c'est sûr qu'on en a pour notre argent, ça va être le fun pour nos clients, ça. Justement, M. Hogan, ici, regarde, tu vas être accompagné de Wrestling with Pixels pour le reste de l'épisode.
Ah, c'est merveilleux, ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oh! Stéphane, as-tu déjà vu Aquarius?
Je n'ai jamais vu Aquarius. Aquarius.
Aquarius.
Ouais. Mais toi non plus, visiblement.
J'ai déjà vu Aquarius. Okay. Sérieusement, très content que le gérant m'ait permis de commander ce film-là. C'est... En fait, le titre du film qu'on connaît tous, c'est Stage Fright.
OK.
Et dans ça, il y a comme C'est comme une genre de pièce de théâtre. Et ça se passe dans un théâtre. Et le slasher, le vilain, le méchant, a comme une tête d'oiseau. On le voit ici un petit peu avec les... il essaie de les tuer. J'adore. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Et...
je viens de voir que c'est Michel Soavi qui a réalisé ça, qui est le même qui a fait Cemetery Man.
Ah oui, tiens ça. Et en plus, il y a quelques années, il y a eu un genre de remake, reboot de Stage Fright. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça.
Ah, t'as aimé le remake?
Sérieusement, oui. Je crois que... écoute, Stéphane, j'aimerais ça qu'éventuellement tu regardes l'original suivi du remake la semaine d'après pour nous faire ton... différence.
OK, écoute, peut-être. Si j'ai pas le choix, je suis payé pour être ici. Il n'y a pas de problème. On va faire ma job.
Yes, sir.
Comme ils disent.
Autre chose?
Bon, non, ouais.
Psycho?
Oh, c'est Psycho 2, 3, 4 et Bates Motel.
Ça, j'ai jamais vu Bates Motel. Laurie Petit. Connais-tu Laurie Petit?
Non, mais il y a Bud Cort là-dedans. Puis Bud Cort, c'est un acteur, c'est un character actor des 80s, mais il a aussi joué dans un film qui s'appelle Brain Dead, mais pas celui de Peter Jackson.
Je suis fucké, je comprends rien qu'est-ce qu'il dit.
Compliqué. Écoutez et... Histoire de tronche, mon ancien podcast, vous allez comprendre la référence.
Finalement, V.
Ouais.
La télésérie V qui m'a donné les jetons quand que j'étais jeune.
Populaire, ça.
C'était bon, ça.
Il y a beaucoup de femmes.
Ouais, il y a eu un genre de reboot.
Comme d'habitude.
Mais c'était pas aussi bon. Mais écoute, ça, avec Robert Englund. Hein, Robert Englund, à cause de ça, personne ne le voyait dans Freddy parce qu'il fait comme le gentil méchant là-dedans. En tout cas, très cool.
Ouais, mais Robert Englund en parle souvent de V comme étant très important dans sa carrière. On le connaît tous pour la même chose, Robert Englund, Freddy Krueger, mais V, en fait, comme tu dis, Freddy n'aurait pas existé sans V.
Effectivement. Là, on a des beaux arrivages.
Quand même.
Mais là, je les ai remis dans la boîte, faut pas que je les remette dans la boîte.
Non.
Mais ça, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est arrivé, Stéphane? Aujourd'hui, mais depuis le début, là. Qui va nous dire ça?
Daniel, peut-être? Daniel d'Horreur FM, tiens, c'est un bon Jack, ça.
Au Super Club Vidéo Gore, vous mettez 25 cents dans ma chine, vous pognez une gomme avec une étoile. Qu'est-ce que ça vous donne?
Ça vous donne gratuitement le meilleur film du club. Abonnez-vous à notre chaîne!
Le 26 avril, ça, c'est 3 jours avant ma fête. Hein, je vais avoir 42 ans dans 3 jours. Mais au-delà de ma fête, là, même si c'est la chose la plus importante présentement, il y a aussi... T'as-tu un problème?
Non, j'ai chaud.
T'as chaud? OK, c'est pour ça que tu es XP.
Oui.
Mentos, The Fresh Maker. Daniel d'Horreur FM, lui, va pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Un 26 avril dans le monde de l'horreur. Allons le voir maintenant.
Salut, tribu d'horreur, et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 26 avril, il y a un total de 25 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1956, on a The Creature Walks Among Us, qui est le troisième dans la série de films de l'étrange créature du lac noir, a.k.a. Creature from the Black Lagoon. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens que c'était le moins bon de la gang, parce que dans celui-là, comme son titre le dit, la créature est même plus dans son lac. Après ça, en 1974, on a It's Alive, qui est un film de bébé mutant tueur réalisé par Larry Cohen. Ça raconte l'histoire d'un couple qui attend un enfant et qui, le jour de l'accouchement, se rend compte que c'est un mutant et qui est assoiffé de sang parce qu'il a tué tout le staff de l'hôpital qui était présent dans la pièce. De ce que je me rappelle, c'est pas full excellent, mais c'est divertissant. Ensuite, en 1991, on a There's Nothing Out There, qui est un film full méta sorti 5 ans avant Scream. Mais au lieu d'être une déconstruction du slasher, c'est une déconstruction des films de monstres. Ça raconte l'histoire d'une gang de jeunes adultes qui vont passer du temps dans un chalet dans le bois pendant le Spring Break, puis là-bas, ils se font attaquer par une bébite. Il y a un des personnages qui est un connaisseur de films d'horreur qui essaie d'avertir ses chums du danger, mais il n'y a personne qui le croit, puis un par un, ils se mettent à mourir. C'est rien de wow, mais c'est sympathique. Ensuite, en 1996, on a The Craft, qui est un film de sorcière qui met en vedette Fairies of Balk, Robin Tooney, puis Neve Campbell. Parce que oui, Neve Campbell a eu plus d'un succès en 1996. Dans ce film-là, on suit une gang de filles un peu rejets qui se mettent à faire de la sorcellerie pour leur propre gain et qui en subissent les répercussions négatives par la suite. C'est un classique des 90s et selon moi, un film qui mérite vraiment d'être vu. Ensuite, en 2005, on a House of Wax, qui est le remake de House of Wax de 1953, qui lui était le remake de Mystery of the Wax Museum sorti en 1933. Ça raconte l'histoire d'une gang de jeunes qui tombent sur une ville fantôme peuplée de gens faits de cire. C'est un slasher qui met en vedette Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki et Paris Hilton, puis qui a centré une grande partie de son marketing sur le fait que Paris Hilton meurt dans le film. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens avoir vraiment aimé ça. Ensuite et finalement, en 2007, on a 28 Weeks Later, qui est la suite de 28 Days Later, sorti en 2002. Dans ce film-là, Londres est maintenant clean et prête à réaccueillir des habitants, mais évidemment, ça vire mal, puis la ville se retrouve encore une fois en pleine épidémie de zombies. Ce film-là met en vedette Robert Carlyle, Imogen Poots, Rose Byrne, puis Jeremy Renner. Ben oui, Hawkeye dans un film de zombies. Puis là, avant que vous vous mettiez à vouloir me corriger, je sais que c'est techniquement pas des zombies, mais plutôt des infectés. Mais hey, close enough. Ça fait longtemps que j'ai vu les deux, mais de ce que je me rappelle, je pense que j'aime mieux la suite. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve et Stéphane.
T'as pris des notes par
ouais, j'ai pris des notes parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il y a 6 highlights. Tu sais, comme la semaine passée, il y en avait seulement 2.
Ouais.
C'était pas une grosse semaine.
Ouais.
Mais 6, t'es-tu correct?
Oui. Pas bien.
T'as replacé un peu. Il y a quand même The Craft de 96.
J'adore. Mais en fait, à 16 ans, j'étais en amour avec Neve Campbell.
Ouais.
J'imprimais ses photos sur mon ordinateur. Ça prenait comme 8 heures, juste pour avoir un... Puis là, le téléphone sonnait, c'est engagé, c'est l'enfer, en tout cas. Jamais imprimé des photos de Paris Hilton, non?
Ah, une chance, mais Paris Hilton dans House of Wax, je dois avouer qu'elle était bonne, puis ce film-là est bon.
C'est très bon.
Très
c'est
compétent.
Hyper divertissant.
Très compétent comme slasher, j'ai eu du fun à regarder ça.
Autre chose, There's Nothing Out There, ça me dit absolument rien.
Moi non plus.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Si on recule, par contre, avant d'aller au prochain, je veux qu'on parle de It's Alive.
Excusez.
Bon, on recule pas trop loin, on a besoin de toi, Steve.
Non, mais je reculais pour aller chercher le triple feature de It's Alive.
Aujourd'hui, apprenons les syllabes.
Les lettres. Alive. Les lettres. C'est overrated, ça.
Allez, ouais.
C plus Y, cela donne... Si.
La prononciation, pas besoin de ça. Hein? Au salaire qu'on est payé ici. Hein? Au salaire qu'on est payé ici.
Fait que It's Alive, le monstre est vivant, suivi du Les monstres sont toujours vivants, suivi de Le monstre est vivant 3.
Ah, ça, c'est facile de se retrouver là-dedans.
As-tu déjà vu les It's Alive?
J'ai vu le premier It's Alive.
Tout le monde me dit que c'est plat.
C'est long.
Ouais?
C'est pas super intéressant. Là, tes disques qui se déplacent sont They're Alive.
Hey, ça vient du Vidéozone de Prévost.
De se faire. Parle pas des compétiteurs en ondes, s'il vous plaît.
Oui, oui. Puis en fin de compte, qu'est-ce qui reste? 28 weeks later.
Encore le X qui revient. Steve aime la lettre X. Il la place partout.
Ah ouais!
X.
Ouais. J'ai pas vu 28 weeks. Moi, j'étais un fan de 28 days.
La scène d'ouverture de 28 weeks est incroyable.
Beaucoup de gens disent qu'ils préfèrent 28 weeks à 28 days later. 28 days later, c'est un de mes films d'horreur préférés. Fait que ça serait à voir.
Yeah. Après la pause, parlant d'horreur, on parle toujours d'horreur, on parle de l'année de l'horreur, mais là, on s'en va à quelle année?
78. Grosse année, ça.
C'est vrai.
Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedelhorreur.com pour plus d'informations.
1978, Steve. À quoi on pense la première affaire? Halloween de John Carpenter.
Ah, moi je pensais plutôt à Someone Watching Me de John Carpenter. Tu sais qu'il a sorti deux films en 78.
Ben, ah, you look. Il a frappé fort, en tout cas deux fois cette année-là. Je suis vraiment curieux de voir de quoi Paul Lafont puis c'est pas une raison de sacrer.
J'ai rien dit, j'ai rien dit.
Someone watching me, j'ai jamais vu ça.
Ah ben moi non plus.
La seule affaire à quoi je pense, c'est cette chanson là. Puis il y a eu aussi The Omen 2.
Oui, il y a eu aussi Jaws 2.
Oh.
Il y a eu Invasion of the Body Snatcher.
Ça, c'est un très bon film en passant.
J'avais beaucoup aimé le genre de reboot qu'ils ont fait en 90-91. J'avais aimé ça.
Okay.
C'est tout. Attack of the Killer Tomatoes aussi en 78.
Oui. J'en reviens pas que ce film-là existe en partant.
Ah oui, puis il y a aussi eu un film qu'on va parler plus tard.
On va se faire ça.
On va parler plus tard.
Allons voir Paul.
Avant. Qui va parler d'un autre film qu'on va pas parler.
Je suis pas là-dedans, là. Ça n'a rien à voir.
Convoqué.
Hey, salut tout le monde. Paul de Grindhouse Funhouse. Cette fois-ci, je vais vous présenter un film qui donne plus dans le genre Grindhouse, qui aurait aussi des éléments d'horreur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller avec un film du roi du cinéma d'exploitation des Philippines, Sergio H. Santiago. Mon choix s'est arrêté sur le film Vampire Hookers, mettant en vedette un des vétérans de l'horreur et du grindhouse, John Carradine. On suit Terry et Tom, interprétés par Trey Wilson et Bruce Fairbairn, deux marins en congé aux Philippines dont leur seul objectif est d'avoir du sexy time. Alors qu'ils sortent dans un bar avec leur commandant, celui-ci croise une femme qui l'invite à passer du temps à deux de façon plus intime et surtout dans un endroit plus tranquille. Quelle meilleure place pour ça qu'un cimetière? Le lendemain, quand Terry et Tom se rendent compte que leur commandant n'est pas revenu de son one night stand, ils partent à sa recherche. Ils repèrent le chauffeur de taxi qui a amené leur ami et le suivent jusqu'au cimetière. Ils découvrent alors qu'un vieux vampire pimp, joué par John Carradine, qui a trois belles vampires à sa disposition pour attirer les victimes dans leur antre et en faire leur délicieux repas. C'est là que Tom alerte les autorités et les accompagne au cimetière pour vérifier ce qui se passe. Les policiers constatent rapidement ils perdent leur temps et abandonnent Tom sur place. C'est alors que Pavo, joué par Vic Diaz, un serviteur maladroit et idiot qui veut désespérément devenir un vampire, surprend Tom, l'assomme et le garde en otage. Alors qu'il fait face à une mort certaine, il va au moins y aller avec un sourire dans la face. Est-ce que son ami Terry, le seul à veiller sur lui, le sauvera à temps? Comme film d'exploitation qui n'est pas vraiment de l'horreur, ni un cousin éloigné de ce qui pourrait vaguement ressembler une comédie, vous en avez à peine pour votre argent. Le rythme de cette histoire est douloureusement lent. On peut clairement voir qu'il essaie de remplir du temps malgré tous ses efforts. Ils ont à peine réussi à en faire un film de 80 minutes. Je vais y aller avec du positif. Une chose que j'ai appréciée de Vampire Hookers, c'est l'ambiance que procure le tournage en 16 mm aux Philippines. Les bars pourris, la vie nocturne philippine, le lieu du cimetière, le repère souterrain, les trucs bizarres que le directeur artistique a mis sur les murs, j'ai aimé tout ça. John Carradine avait déjà plus de 200 films à son actif. Il avait plus de 70 ans quand il a tourné Vampire Hookers, dont rendu là, il n'avait clairement plus rien à perdre. On peut voir que Dufon a juste joué le rôle de Richmond Reed, un vampire qui est aussi une figure paternelle pour les trois vampires sous sa tutelle. Ce n'est pas un setup à la Hugh Hefner et son manoir Playboy, mais plutôt une situation de survie. Il se sert de ces belles demoiselles pour rester en bonne santé. Trey Wilson et Bruce Fairbairn, qui jouent les marins, offrent des performances assez banales et peu mémorables. Les vampires femmes, seul Lenka Novak a retenu mon attention pour deux raisons évidentes. Et Vic Diaz, qui joue toujours les rôles du gros homme idiot ou méchant joyeux dans tant de films d'exploitation philippins des années 70, dont la moitié des films de Sergio H. Santiago. Sa performance dans Vampire Hookers peut être résumé ainsi. Quoi d'autre d'intéressant dans Vampire Hookers? On a droit à une scène d'orgie de près de 10 minutes entièrement au ralenti qui est le foursome le moins sexy que j'ai jamais vu. Et j'en ai vu! De plus, si vous avez déjà voulu voir Vic Diaz se la branler, faites-vous-en pas, on voit juste le mouvement. Si c'était sur votre carte de bingo, votre souhait sera exaucé. Vous le verrez se gaver de ses propres pets et dormir dans un cercueil marqué « tête, pied » qui m'a fait sourire, je dois l'admettre. Voulez-vous voir John Carradine tirer un bras avec une arbalète? Vous l'avez, l'aspect comique dans Vampire Hookers est du niveau de Abbott and Costello, où on se retrouve dans un bar de Lady Boys aux Philippines sans le savoir et la confusion que ça cause, n'est-ce pas hilarant? C'est pas mal cringe quand on regarde ça avec des yeux de 2024. Peut-être que c'était un petit peu plus drôle en 1978. quelque chose que vous apprendrez, et donc je n'étais pas conscient, c'est comment la nuit se transforme en jour instantanément aux Philippines. Le film se termine sur un pet, parce que c'est le genre de film que c'est. Je recommanderais Vampire Hooker si vous avez épuisé toute votre collection de films et celle de vos voisins et qu'il vous reste juste ça à regarder. Et tu sais quoi, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un film d'horreur trash, sanglant et sexy, très divertissant. À la place, on a une pseudo-comédie horreur absurde qui, au final, est pas vraiment drôle, remplie d'humour juvénile et sans aucune trace de gore. Le titre du film, l'affiche et les chesticles de Lenka Novak étaient les highlights de Vampire Hookers. Visitez-moi à Grand House Fun House et je vous dis ciao bye for now.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pets, c'est ça a l'air d'un gros n'importe quoi. Ça a l'air d'un film, je vais pas dire à regarder en boys, mais je veux-tu vraiment être assis dans mon divan avec Stéphane, le gérant, Danny puis Guillaume en train de regarder une scène d'orgie de 10 minutes au ralenti? Je pense pas.
Tu penses pas, mais t'es pas sûr. Ça, ça a été tourné en 78 aux Philippines, puis ça aurait pu être tourné à Laval-Ouest en 2024 aussi. Habituellement, là, on commence avec Christophe.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
L'année de l'horreur, 78, ça aurait été Christophe avec sa pile de films, suivi de Paul, qui nous parle d'un film dont je veux plus jamais qu'on parle. Mais là, on a quelque chose de spécial pour vous cette semaine. On change la formule un peu. Christophe va avoir un malin plaisir à nous parler d'un réalisateur en particulier qui a eu un gros impact en 1978, et nous avons nommé
George Romero à cause de son film Dawn of the Dead.
1978, le super club de vidéo gore, l'année de l'horreur. Christophe G, ici, direct de la rive sud. Butchertown Vidéo, la succursale de Boucherville. Beaucoup de retours cette semaine. 1978, ben, tu sais, c'est une grosse année, tu sais, parce que j'avais un an. Hey, salut! J'étais un bambin, puis il y a ce film-là qui est sorti, Dawn of the Dead. Je vais juste essayer de faire de la place un peu. Je vais tasser une pile. Là, j'imagine que vous avez deviné qu'on allait parler de films de zombies, plus précisément, de l'œuvre de George Romero. Parce que, ben, évidemment, ce premier film-là, ben, en fait, c'est pas son premier, là, mais le film de 78, Dawn of the Dead, signé par Claudio Simonetti, The Goblin, qui a fait la soundtrack, c'est un film absolument incroyable. J'espère que vous l'avez vu, Dawn of the Dead, parce que moi, je suis tellement un fan que j'ai beaucoup trop de copies différentes du même film. Steve est un peu comme moi avec Evil Dead, puis il y a certains films. Mais Dawn of the Dead, ben, le film de zombie ultime, hein, avec Tom Savini, qu'on trouve dans le rôle d'un biker qui fait les effets spéciaux, évidemment. Il y a même eu un remake, hein, L'Aube des morts, Dawn of the Dead de Zack Snyder, dans les années 2000, où les zombies couraient. Sacrilège! Il y en a qui bad trip avec ça, mais moi, je trouvais ça très bien quand même, même si le zombie classique, il marche lentement parce qu'il est en état de putréfaction. Il est mort, il peut pas courir. S'il court, il a la rage, puis c'est une autre affaire. Mais Romero, c'est un immense réalisateur. Son premier coup de circuit, c'était Night of the Living Dead. Noir et blanc, à l'époque, en 68, c'est quand même un film que les gens n'étaient pas prêts. Puis je vais aller vite parce qu'il y a une grosse carrière. T'sais, Night of the Living Dead, évidemment, il y a eu aussi le remake de Tom Savini lui-même qui a réalisé un film en 1990, très bien foutu. Le Night of the Living Dead 3D avec Sid Haig, à éviter. Sinon, en 85, la même année où il y a eu Return of the Living Dead, où les zombies étaient drôles, ils mangeaient des cerveaux, il y a eu Day of the Dead, le troisième volet de la trilogie de Romero, qui se passe dans un bunker, donc on est en mode critique de l'armée, tu sais, le militaire, c'est vraiment trop bon ce film-là, parce que je suis pas capable de me tanner d'écouter des versions différentes. Faut pas écouter la version de Steve Miner, Day of the Dead, sortie dans les années 2000. Puis aussi, ben, moi, je suis pas très fan de Land of the Dead, la deuxième trilogie de Romero, hein, Diary of the Dead, qu'on pourrait appeler Diary of the Dead, ou Survival of the Dead, même si la pochette est quand même cool, c'est pas yard, tu sais. Il faudrait que je me tape enfin There's Always Vanilla, qui est un autre de ses films à Romero, et Season of the Witch, que j'ai jamais visionné, que j'ai en VHS. Mais dans ces films moins connus, il y a un film de vampire absolument, absolument cool, Martin, qui a réalisé dans les années 70. C'est une histoire de psychose. Vraiment, vraiment nice. Il y a aussi The Crazies, comme un film d'infecté. Hein? Il a essayé de lâcher les zombies. Puis, au début, je pense que c'est en 71 que c'est sorti. Il y a même eu un remake, bon, version Blu-ray, plus intéressante. Un remake moyen, correct, divertissant, mais ce film-là, c'est ce film-là que vous voulez revisionner après d'avoir écouté Dawn of the Dead, qui vient de sortir en salle, remastered, en 3D, au cinéma du parc. Mais Creepshow, hein, histoire à mourir debout, trop bon. Puis, ben, tu sais, si j'ai encore une seconde ou deux pour vous parler de Monkey Shine, que j'ai beaucoup aimé, hein, ça c'est assez, assez cool. Et The Dark Half, qui est aussi adapté de Stephen King comme Creepshow. Donc, ben, Romeo, paix à ton âme. T'as pas besoin de revenir en zombie. T'es immortel, George.
George Romero, Steve. Je veux dire, tout a été dit, je pense, déjà. Mais l'impact qu'il y a eu dans le cinéma d'horreur, là, c'est...
complètement fou. Avec Sur la route de l'horreur, quand on était voir sa tombe, c'était spécial. C'était pas juste se promener dans un cimetière. L'homme est un géant, en fait. Merci, George.
Vraiment beaucoup. Gros fan de Dawn of the Dead, mais Day of the Dead, c'est un de mes films d'horreur préférés.
George, écoute. George, j'aimerais ça discuter avec nos prochains clients.
C'est vrai, ça. Ouais. Avec Deep Dreams Films, d'ailleurs, on s'en va les voir maintenant.
Non, Stéphane, après la pause.
Après la pause.
Le Requiem et son marché de l'horreur seront de retour pour leur 7e édition les 21 et 22 septembre prochains. Pour plus d'informations, suivez la page Facebook du Requiem, le marché de l'horreur. Le Requiem, la plus grande convention d'horreur au Québec.
Deep Dreams, film de la Belgique à Bruxelles.
Même affaire.
Oui, pareil.
Brendan et Margot, extrêmement heureux de vous avoir ici dans le backstore du Super Club Vidéo Gore. Je veux tout savoir sur Deep Dreams Films, qui est une compagnie que vous avez commencé ensemble. Donc, je vous laisse parler.
OK. Alors, ben, tout d'abord, bien bonjour à vous deux et merci de nous avoir accueillis. Je sais pas si tu veux commencer.
Ah non, c'est pas okay.
Ben, en fait, voilà, Deep Dreams Film, c'est notre petit logo, notre identité de production audiovisuelle. Donc, et voilà. Et en fait, on s'était dit que ce serait bien d'accentuer notre contenu vers le film de genre, le film d'horreur, les choses un peu sinistres et dark. Après, évidemment, on a testé pas mal de choses avec les années, mais là, voilà, on est chaud. On veut se dire que, voilà, on ne veut toucher qu'à l'horreur, donc on va essayer de s'y tenir. Et voilà. Mais c'est en tout cas une petite maison de production très indépendante située en Belgique. Oui.
Génial. Puis l'idée a germé de quelle façon?
Pour accentuer le contenu vers l'horreur ou la création de la production?
La création de la production, parce que clairement, votre contenu est directement vers l'horreur, effectivement. Mais comment vous avez dit, comme par exemple, est-ce que vous vous êtes rencontré à un moment donné en parlant de vos projets, vos passions, vous avez dit, savez-vous quoi? Il serait temps qu'on parte notre propre studio de production, notre court-métrage puis de long-métrage également.
OK, oui, si tu veux.
Je pense que toi, tu avais déjà...
J'avais déjà utilisé ce logo.
J'avais déjà utilisé ce logo-là. Et moi, en fait, je venais de tourner un film. Et puis, j'ai trouvé le profil de Brandon, en fait. Puis, on a commencé à faire des projets ensemble. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire de Deep Dream, justement, quelque chose de concret. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et on a lancé le truc. Et puis... Et puis, ben voilà, on a commencé, on s'est dit, comme on aime bien tous les deux les films d'horreur, les films de genre, on s'est dit, bon, on va faire ce de Deep Dreams, quelque chose de concret, et on va lancer à fond dans les films d'horreur, en fait.
Puis est-ce que pour vous, comme dès le départ, est-ce que c'était clair que ça allait être des films d'horreur? Est-ce que vous avez évalué d'autres possibilités également?
Ben, on avait testé d'autres possibilités, mais c'est vrai que voilà, on avait fait par exemple un fan film Batman, un fan film Star Wars, des fan films Halloween avec Michael Myers et d'autres choses, des films, enfin des thrillers, des drames, etc. Et on se disait, tiens, on tourne quand même toujours autour de choses assez sombres et sinistres, mais l'envie était toujours. Le seul souci, c'est qu'on avait déjà essayé de faire des petits courts-métrages d'horreur qui ne faisaient pas peur, et du coup, ça nous avait un peu refroidi. On s'était dit, mince, si ça ne fait pas peur, c'est con, quoi. Et jusqu'au jour où, voilà, on a recommencé, on a fait un nouveau départ, et on pense que c'est effrayant, et on s'est dit, allez, cette fois, c'est la bonne, on y va. Mais clairement, oui, c'est l'appel de l'horreur. Clairement, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est naturel.
Et là, vous avez décidé de mettre ce contenu-là sur une chaîne YouTube qui est devenue très populaire rapidement. En fait, votre dernier long métrage a déjà plus de 50 000 vues en quelques semaines. Quelle est l'idée d'utiliser la plateforme YouTube pour vos créations?
On avait fait, je pense, 2 ou 3 longs métrages avant celui-ci, donc Pandemonium. Et ça avait été distribué sur des plateformes comme Amazon, Apple TV, etc. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savaient pas les voir, en fait. Chez nous, en tout cas. Parce que c'est distribué plus aux États-Unis. Et chez nous, ils ne savaient pas les voir. Et donc, on s'est dit, la solution, c'est de les mettre sur notre chaîne YouTube. Comme ça, tout le monde pourra les voir. Et on a commencé comme ça à tout remettre sur YouTube. Et puis, le dernier ici, il a explosé et on ne comprend pas pourquoi, mais on est très contents. Hein, et du coup, on s'est dit ça, c'est la solution. Au moins, tout le monde peut voir nos films. Et voilà, quoi.
Tant mieux. Écoutez, vous avez réussi en 2 semaines avec 51 000 views. Puis,
ah ouais, rendu à ce nombre
de views-là, ce qui est bien, c'est que ça devient organique. Là, ça va apparaître dans les recommandations des gens qui aiment le long-métrage. Clairement, tu sais, c'est un produit de qualité. Là. Je l'ai regardé pas au complet, mais j'ai regardé des séquences. Puis c'est vraiment bien fait. Là. C'est vraiment bien fait. Puis ça saute à l'œil parce qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. C'est facile de s'y perdre quand même. Mais du contenu de qualité comme ça, c'est une des raisons, selon moi, pourquoi vous sortez du lot, clairement.
Ah oh ben, c'est gentil. En tout cas, on essaye. Mais c'est vrai que, ouais, pour le petit pic de vue, on comprend pas pourquoi. Enfin, je veux dire, si vous dites que c'est bien, c'est sans doute pour ça. Mais c'est vrai que il y avait vraiment ce côté, on voulait revenir aux sources de quand on était un peu plus jeune, qu'on faisait des films et qu'on les mettait sur YouTube. Parce que l'aspect projection, festival, etc., c'est génial. Mais il y a un côté assez stressant où on a tellement d'attentes que finalement, elles ne sont jamais comblées. Et on voulait revenir à quelque chose de plus simple en faisant un film, mettons-le sur YouTube et on verra. Et en plus de ça, on a des bons retours. Donc, c'est le meilleur dans l'histoire.
Tant mieux. J'imagine que vous fréquentiez les vidéoclubs là, à l'époque, qu'ils existaient toujours. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le Super Club Vidéo Gore est le dernier club vidéo ouvert au Québec.
Il doit survivre. Il doit survivre.
Et, il survit grâce à nos sections choix du staff. Donc, nous, au Super Club, on a une section là, dans notre club maintenant où est-ce qu'il y a les films préférés des employés. Puis, je crois qu'on devrait absolument, Steve, je suis convaincu que tu es d'accord, on devrait avoir une section court-métrage puis film indépendant comme ça qui est complètement... Parce que c'est très facile de se perdre dans la mer ou dans l'océan de contenu. Ça, c'est un des avantages qu'on avait à l'époque avec les vidéoclubs. Les employés pouvaient guider les clients vers « moi, j'ai vu tel court-métrage ou tel long-métrage », puis ils peuvent donner leurs recommandations, tandis que quand on se perd dans l'algorithme, on devient juste un autre contenu, un autre vidéo. Puis c'est vrai que c'est mystérieux, hein? Vous ne savez pas pourquoi en 2 semaines, 51 000 views. C'est inexplicable, mais ça fonctionne, puis ça a fait découvrir votre chaîne à plein de gens.
C'est vrai, c'est cool.
Parce que même en termes, comme on a eu beaucoup de vues, même en termes d'abonnés, ça explose aussi. Donc, on a de plus en plus de personnes qui... La nouvelle personne qui découvre nos contenus, ils sont contents en plus, ils aiment bien. Donc, et nous, on est contents aussi. Le but, c'est quand même que nos créations soient vues.
C'est sûr.
Quelque chose qui est vraiment important et intéressant, c'est lorsqu'on va sur votre chaîne et qu'on va revoir vos films, il y a extrêmement également beaucoup de commentaires Donc, les gens regardent les films et laissent un commentaire. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés votre chaîne et qu'ils sont contents, en fait, d'en faire partie et d'avoir une conversation avec vous. Mm-hmm. Et je crois que vous êtes en train de faire ce que tout cinéaste de films de genre, jeune cinéaste ou les personnes qui font des films voudraient faire. Et je dis... Vous faites des films longs-métrages, je présume, à bas budget, mais la qualité visuelle, lorsqu'on regarde les films, semble avoir un gros budget, ce qui est comme vraiment pas facile à faire de nos jours.
Mm-hmm. Ben c'est ça qu'on a envie de faire et qu'on a envie de montrer qu'on peut faire du bon contenu avec peu de budget, en fait. Mm-hmm.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas, en termes de budget, parce qu'effectivement, prenons l'exemple de Pandemonium, le budget était très, 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 très bas. Mais justement, on essaye de ne pas tomber dans les pièges des first-time filmmakers où c'est genre, ouais, j'ai pas de budget, mais on va faire une grosse scène d'action avec plein de personnages, plein d'endroits, etc. Et c'est bien, il faut être ambitieux, mais c'est peut-être malheureusement là que le premier piège se présente. En fait, nous, on se dit, bon, on n'a pas beaucoup de budget, c'est pas grave. Un décor, deux personnages, ou maximum trois, et vraiment rester le plus minimaliste possible. Et est-ce que c'est ça qui fait que voilà, on arrive à se concentrer sur d'autres aspects de la réalisation? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est clair que peut-être que le fait de ne pas partir dans tous les sens fait que ouais, ça a l'air un peu plus concentré. Je ne sais pas. En tout cas, tant mieux si ça se remarque.
Ouais, c'est vraiment une question de focus, je crois, Brandon, voilà. Comme tu viens de mentionner. Puis votre focus est clair. Vous assumez le budget qui est alloué à votre projet.
Ah, mais c'est ça. Vous, clairement, clairement.
Au lieu de prétendre, tu sais, puis de faire des scènes d'action, mais c'est très bien dit, ça. J'avais jamais fait ce parallèle-là, vraiment.
Ah, mais c'est vrai que c'est la difficulté, mais bon, c'est possible, c'est possible.
Exact.
Donc, ma question, quel est le futur? Est-ce que vous allez... sortir un court-métrage à tous les deux, trois mois? Est-ce que vous avez un plan ou on verra où est-ce que ça va, où est-ce que le vent va nous apporter?
Bah, dans l'idéal, on aimerait bien tous les mois poster un court-métrage. En tout cas, un projet tous les mois. Ça, c'est ce qu'on espère pouvoir faire. Après, si c'est pas tous les mois, ce serait... les 2 mois, par exemple, ou en tout cas régulièrement poster un nouveau projet. Mm-hmm. Ouais.
Le très court. Les très court. Ouais. Enfin, c'est vrai que les très courts, ça, on aimerait bien en sortir assez souvent. Enfin, si évidemment on est inspiré et qu'on a l'idée. Mais après, c'est vrai que pour des plus gros projets comme Pandemonium, qui, même s'ils n'ont pas coûté grand-chose, coûtent quand même quelque chose, disons que là, ça, ce sera peut-être moins fréquent. Mais en tout cas, on va essayer, allez, au moins 3 gros par an, ce serait bien, dans la mesure du possible, évidemment.
Et les plus courts.
Plus tous les petits courts, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, ça dépendra de ce qu'on arrivera à dégoter. Mais en tout cas, on va voir comment faire. Il y aura du contenu d'horreur, ça, c'est sûr.
Vous êtes très bien parti.
Ah ben, c'est gentil, on espère.
Qu'il y a un prochain qui arrive.
Ah oui, et il y en a un prochain qui arrive justement. Enfin, toujours un court, mais un tout petit peu plus long de 20 minutes. Et donc, ça, le 14 février, les gens pourront découvrir.
Mais là, ma dernière petite question avant qu'on vous laisse aller. Donc, les films qui sont présentement là, c'est des films que vous avez faits dans le passé. Ou est-ce que c'est des films que vous avez faits spécifiquement pour la chaîne ou c'est des films que vous avez faits dans le passé, que vous avez recommencé?
Les deux premiers, les deux longs-métrages, c'est des choses qu'on a réalisées en 2021-2022. Mais voilà, on les a mis parce qu'on s'était dit on veut regrouper tout le contenu là-bas. Mais en tout cas, à partir du premier petit court-métrage d'horreur, The Awakening, là, c'était exclusivement pour YouTube. Mais c'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Hein. C'était l'année passée, mais comme je suis... comme on est maniaque de l'ordre dans les vidéos YouTube, on s'est dit, bon, supprimons tout, on va tout remettre dans le bon ordre. Mais sinon, en soi, ils sont très récents, très, très, très récents.
C'est très, très bien. Dernière petite question, en fait. On est un vendredi soir, il y a environ 15 ans, et vous voulez aller vous louer un film dans un club vidéo. Quel genre de film allez-vous vous louer, ou surtout peut-être lequel?
Film d'horreur.
Oui.
Lequel? Mais lequel?
Ah. C'est quoi le premier titre qui vous vient à l'idée quand vous pensez à l'horreur des clubs vidéo? En fait, moi, j'en ai un qui apparaît toujours, puis c'est Nightmare on Elm Street, les Griffes de la Nuit 2, La Revanche de Freddy.
Okay. Et,
je le répète depuis l'ouverture du club, c'est pas le meilleur de la franchise.
Ah, il est excellent. Il est...
Bon, ben voilà, merci.
Hey. Non, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup celui-là. Mais c'est vrai que, ouais, en termes de vidéoclub, je sais pas, moi, je pense à Scream. Il y avait toujours au Canada, frisson, attention.
Oh, wow.
Mais je me rappelle vraiment avoir été effrayé par le sombre coin du vidéoclub, la section horreur. Il y avait cette cassette mise en avant et avec Drew Barrymore qui regarde le spectateur. Ça me terrorisait vraiment. Mais ça m'attirait énormément. Ça, c'est le souvenir que j'ai des vidéoclubs.
Ou
Halloween. Enfin, nous, on est de l'époque vraiment début 2000 et il y avait cette jaquette d'Halloween Résurrection avec le couteau et sa tête comme ça. Mais je trouvais ça vraiment glaçant. Hein. Bon, le film est glaçant, mais pas dans le bon sens.
Exactement. Il donne envie d'éteindre l'écran. Mais voyez-vous, c'est exactement ça, les souvenirs des clubs vidéo. C'est des souvenirs marquants qu'on n'oubliera jamais. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on perd avec le streaming un peu. Mais heureusement, vous, votre chaîne, comme je disais tantôt, puis comme tu as dit, Brandon, un focus qui est vraiment clair. Merci d'être des artisans de l'horreur, des passionnés comme ça. Pour nos clients, puis pour tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, c'est ça qu'on cherche.
Ah ben, merci à vous. Merci de mettre ça en avant et de, ben, du coup, de nous mettre en avant avec cette vidéo. C'est vraiment gentil. Hein.
Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Moreton Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservé dès maintenant au brasserieanorak.ca.
Steve, les enfants du Blé d'Inde continuent dans ta vie.
Oui, la cinquième. Et sincèrement, premièrement, je viens de comprendre enfin c'est quoi l'entité, le truc qui rend méchant les enfants.
Le fameux Tremor.
Ouais, genre, ça a été long. Mais je t'avertis, ce film-là est complètement tout croche et capoté.
Surprise.
Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action!
Alors, mon Stéphane, le cinquième de la série Children of the Corn. Écoute, là, je vais essayer de te résumer ça. Je vois pas que ça a l'air assez tout croche, mais c'est quand même pas mal tout croche.
Ça va être à la hauteur du film.
Je me disais, le quatrième a fini, ça va être la suite. Pas vraiment. C'est réalisé par Ethan Healy, qui a fait House 1 et 2.
Ah, quand même.
Ça, c'est quand même pas pire, ça part bien. Après, premier rôle pour, après toute Linda Hamilton ou Naomi Watts, Eva Mendes, la séduisante Eva Mendes.
Elle a commencé avec Children of the Corn 5.
Ouais. Ben, peut-être j'ai fait une coupe de guinzerie avant, mais vraiment ça. Après, il y a Fred Williamson. T'as-tu vu From Dusk Till Dawn?
Oui.
Le gars avec le cigare, là.
OK.
Il joue là-dedans, il fait le shérif. Il y a aussi David Carradine.
The outsiders call me a monster.
David Carradine, oui.
David Carradine.
Qui est dans Vampire.
Non, c'est pas David qui est dans Vampire, c'est pas son frère. En tout cas, c'est un gars qui s'appelle Carradine, mais c'est pas David.
David Carradine était dans Kung Fu, en fait.
Oui, aussi dans Kill Bill, non?
Oui,
Bill?
Exactement.
Jack Brown, Kill Bill, j'ai tout perdu.
C'est Bill, en fait.
C'est Bill, c'est ça. En parlant de Bill, qui c'est qu'il y a des Bills? Un bartender? C'est quoi mon Bill? Combien ça me coûte? Me monter un Bill, c'est un bartender. Canada est là-dedans! Mais il joue un petit rôle. Tu sais, Canada, il devait être le gars des cascades, puis il jouait un rôle dans le film. C'est vraiment fucké. C'est un groupe d'amis qui s'en vont dans une ville.
I think I found the spot.
Parce qu'une fille du groupe d'amis veut retrouver son frère qui va avoir 18 ans.
Alice, I can't believe it's really you.
How did you find me?
Et là, ben, elle finit par retrouver son frère qui vit dans une maison, puis un gourou qui est David Carradine que les enfants adorent.
Ce qui est complètement weird parce que les enfants habituellement ils veulent tuer les adultes, mais là lui il est là, il est comme possédé, là on comprend pas trop. Et dans ce film là, tu sais dans les autres, là, comment ils ont tué le maïs, ils l'ont fait brûler, ben là le feu dans un gros silo, c'est comme le méchant. Et là il y a l'expression l'homme qui marche derrière les rangs. Et celui qui marche derrière les rangs. Fait que ça, c'est comme le diable qui envahit les enfants, en fait. C'est complètement fucké. David Carradine, à un moment donné, il se fait ouvrir la tête. Par la télékinésie pour tuer Fred Williamson. Le qui dit « Maïs, il brûle, pourquoi qu'il est dans le feu? » Ben là, il y a la phrase de « tuer le feu par le feu ».
There's still time to stop him.
No.
Fight fire with fire.
Fait que là, t'as le gars de 18 ans qui, lui, doit faire un sacrifice parce qu'il va devenir un adulte, fait qu'il peut plus être un enfant. Ben là, Eva Mendes, elle, décide de se sacrifier pour qu'on ait cette raison. Je sais pas pourquoi, va-t-il avoir 18 ans le lendemain? Elle se pitch dans le feu.
Personne ne sait pourquoi elle fait ça non plus. Fait que je comprends Eva Mendes.
Complètement ridicule.
T'es-tu pitché dans le feu, toi?
Non, pas encore. Mais tu sais, comme tuer le feu par le feu, c'est comme si Superman il prendrait de la kryptonite pour essayer de tuer ses ennemis. Ça marche pas. Là. C'est comme il serait faible. Fait que c'est bien. Ça a aucun esti de sens, le film.
T'as-tu réussi à le faire?
Ben oui, je l'ai fini par.
D'une shot?
En fait, non, je vais être très franc avec toi. Je l'ai fini une fois. Et quelques jours après, je me suis dit. Est-ce que je l'avais-tu fini au complet? Fait que j'ai réécouté la fin.
Ah, oh, mon Dieu!
Ouais. Puis là, ils décident de tuer le feu par le feu, fait qu'ils vont aller pitcher du propane dans le feu.
Bon,
tuer le
feu. Ok, Steve a fini avec les
feux. En tout cas, écoute, ça finit, Steph, que tout le monde meurt, le feu pogne, les pompiers essaient de l'arrêter, eux autres aussi, ils meurent, ça marche pas.
J'espère que le réalisateur a eu un accident aussi.
Et la fille s'en va voir la blonde de. L'ex-blonde de son chum pour aller adopter son bébé.
Ah.
Et ça finit que le bébé, ben là, il a les yeux en feu, fait qu'il est possédé. Tu comprends pas trop pourquoi.
Mama's gonna buy you a mockingbird.
Mais il va sûrement avoir la suite ben, dans le prochain. C'est une suite directe parce que toutes les Children of the Corn, c'est logique.
Ben
suite.
Oui, ça se tient à date.
Ouais. Toi, ton film, Stéphane, il se tenait-tu?
Cemetery Man, on va le savoir à l'instant.
Hey, toi, regarde-moi ça.
Je l'aurais fait à sa place, mais bon, moi, je l'aurais lancé un peu plus violemment. Cette semaine, Steve, j'ai regardé un film de 1994 qui est une coproduction de l'Italie, de la France et de l'Allemagne avec des acteurs britanniques. Le film s'appelle Cemetery Man. Un film de 1994 réalisé par Michel Soavi.
Hey, on a dit son nom plus tôt.
Aquarius. Le réalisateur d'Aquarius, un film que t'aimes bien. Un film de 94 d'horreur italien. On était sur la fin pas mal du fade. C'est pas un giallo, Cemetery Man. Il y a des gens qui essayaient d'attacher ça au genre giallo qui est très spécifique là, comme style. C'est pas le cas. C'est un film des années 90 qui a beaucoup de tons des années 80.
Il y a beaucoup de totons aussi.
Ah, ça a aucun sens. La quantité de nudité frontale dans ce film-là, Steve.
On le voit sa pochette.
Ça raconte l'histoire de Francesco Della Morte.
My name is Francesco Della Morte. Weird name, isn't it? Francis of Death. Saint Francis of Death.
Et son Igor, qui s'appelle Nagui, qui habite dans une maison sur le terrain d'un cimetière, dans le fond, puis Francesco Della Morte, est responsable de garder le cimetière en bon ordre. Comment il fait ça, ce monsieur-là? En tuant les morts qui se ressuscitent après 7 jours d'enterrement. Puis tout ça est présenté dans les 5 premières minutes. Francesco est au téléphone dans une maison très glauque, très sale.
« Hello?
Et ça cogne à la porte, puis sans vraiment s'inquiéter, sort un flingue, puis tire un zombie en pleine tronche. Et la tête éclate. Il explique que la seule façon de les tuer quand ils renaissent, c'est de leur éclater le crâne.
Okay.
J'aimais déjà ça.
Ah, c'est bon.
5 minutes, puis j'ai fait « Ah, cool! »
T'avais pas vu la nudité encore?
J'avais rien vu du film encore. En fait, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis, il y a les trois thèmes les plus communs de tous les films d'amour là-dedans. L'adultère, les agressions sexuelles, puis la nécrophilie.
Tu viens de Deux Montagnes, en tout cas.
La Val-Ouest.
La Val-Ouest, qu'est-ce que c'est?
Non, je viens de Deux Montagnes, effectivement. Puis, il n'y avait pas ça dans mon coin quand même. C'est un film qui est très difficile à expliquer au niveau du synopsis. On dirait vraiment qu'on est dans un monde parallèle, complètement. Par contre, Rupert Everett, qui joue le rôle de Francesco de la Morte, est fantastique. Il transporte le film. Puis François Adji Lazaro, qui joue Nagui, la seule chose qu'il peut dire, c'est « Nyeh ».
« Come and have a glass of wine.
Yeah. »
Nyeh, c'est la seule chose qu'on entend de Nagui, qui est comme l'acolyte petit avec le dos courbé, qui travaille un peu avec Francesco, puis qui est son meilleur ami, dans le fond. Puis leur dynamique à l'écran est vraiment... fantastique. C'est vraiment excellent. Tout se passe relativement dans la semi-normalité dans le monde de Francesco, jusqu'à ce qu'une femme nommée Chi, on n'a pas son nom, qui arrive avec un voile noir là, qui s'en vient, dans le fond, mettre à mort son mari.
Husband.
On voit la photo de son mari près de la tombe, puis c'est un homme d'à peu près 85 ans. Puis Chi est une magnifique et très jolie femme, je vous dirais, dans la mi-fin vingtaine tout au plus. Puis Francesco tombe amoureux d'elle complètement, devient obsédé d'elle. Et là, ça devient une genre d'histoire de séduction. Les zombies qui renaissent tombent à l'arrière-plan. Puis, dans le fond, Francesco, sa mission numéro un, c'est d'épouser cette femme-là. Fait que là, je croyais comprendre le synopsis.
Okay.
Je disais, ah, ça va être une histoire de poursuite amoureuse, va essayer de la séduire, malgré qu'elle a encore de la peine en étant nouvellement veuve. De son mari, là, qui a l'âge, je sais qu'à Donald Trump, quasiment.
J'allais dire Colin Sanders. Mais...
Colin Sanders, il doit pas être jeune lui non plus, mais c'est pas ça pantoute, ça part dans toutes les directions. Francesco perd la tête complètement, s'en va dans le fond comme sur une tuerie hors de contrôle en pleine ville. C'est un très petit village, les gens se connaissent tous, puis il y a pas beaucoup de personnages importants à l'extérieur de Francesco puis Nagui. Fait que dans le fond, ce qu'on vit un peu, c'est presque la psychose puis la folie du personnage de Francesco à travers son rôle de responsable du cimetière puis d'abatteur de morts vivants.
Tu vois, il ressemble un peu à Norman Bates aussi.
Non. Je ne sais pas s'il y a des traits de Norman Bates, mais tu sais, c'est un très bel homme, Rupert Everett, dans ce film-là. Puis il détonne à l'écran parce que les acteurs secondaires sont un petit peu moins impressionnants. La dame qui joue Chi, en fait, excuse-moi, l'actrice qui joue le personnage de Chi revient à 3 reprises dans le film sous un alter ego. Parce que la première version d'elle meurt. Après ça, il y a une autre femme qui vient au cimetière qui est pas elle, mais qui est clairement la même actrice. Puis lui, il voit, oh mon Dieu, elle est identique à ma muse. Mais finalement, c'est une autre femme complètement. Donc Francesco tente de la séduire elle également. Là, on tombe dans une autre dynamique. C'est très, très étrange. Puis c'est très théâtral comme film. On dirait vraiment la reproduction d'un conte au grand écran.
OK.
L'esthétique du film, la couleur, toute la mise en scène, c'est magnifique. J'ai vraiment eu un très bon moment en regardant ça. Mais je vous le dis, puis ceux qui l'ont vu comprennent ce que je veux dire, c'est impossible d'expliquer ce qui se passe dans ce film-là.
Comme Children of the Corn 5.
Ouais, c'est pas tout à fait le même niveau, mais je vous dirais, moi qui n'ai pas un fan de films d'horreur des années 90, tant que ça, il y en a quelques-uns que j'aime quand même, donc Candyman, Scream, puis les classiques. Je vous dirais que Cemetery Man est assez haut sur ma liste. Ne serait-ce que pour les performances de Rupert Everett et de Nagui, son petit Igor. Donc, je vous le recommande chaudement, puis je vais même pas vous spoiler la fin. Tu sais, souvent, je vais divulgâcher des films parce que c'est des films qu'on a tous vus ou presque. Mais celui-là, il a comme pas été sur le radar de beaucoup de monde, je crois.
Et combien de yeux vas-tu attribuer à ce film?
Je vais donner 4 yeux sur 5 à Cemetery Man. Vraiment une belle surprise pour moi, Steve.
Wow, fait que t'as une semaine quand même intéressante parce que là, t'as vu un film que t'as beaucoup apprécié. Et après la pause, Guillaume va nous faire un passe-temps à propos de Robocop.
Mon film préféré à vie. Guillaume, merci tellement.
Après, c'est ta fête bientôt, toi.
Yes, man! Tu m'épargnes.
Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant.
À la prochaine, les tripeurs!
Donc, mon chef, Robocop 3 que Guillaume va nous parler.
La semaine dernière, Jordan m'a acheté le documentaire Robodoc. Puis là, cette semaine, Guillaume me fait le cadeau de nous parler dans l'espace-temps de Robocop, mon film préféré
Robocop
ever.
Robocop 3? Ah, c'est pas vrai. Je la niaise.
Je joue pas avec mon cœur de même, man. Mes petits nerfs, là, je suis pas jeune, moi.
Dans les années 80, on avait des fascinations simples. Les morts vivants, les robots, les policiers. Boom! Robocop! Réalisé en 1988 par Paul Verhoeven, dont on a déjà parlé dans la vidéo qui parle de Total Recall, si vous l'avez pas vu, c'est juste ici. Robocop a débarqué dans nos vies comme un coup de dose. Et je suis pas mal certain que personne n'était prêt pour l'impact que ça aurait sur toute une génération de petits gars techniquement beaucoup trop jeunes pour écouter un film de même. Ok, Robocop, c'est l'histoire d'un policier qui s'appelle Alex Murphy, interprété par Bakaru Banzai, par Peter Weller. Peter, my man, respect. Qui est probablement un des derniers policiers pas tout à fait corrompus de la police de Détroit dans un futur dystopique à peine exagéré. Il se fait brutalement descendre avec beaucoup trop de plaisir par un double qui s'appelle Clarence Boddicker et sa gang de joyeux cinglés. Le film finit de même, c'est un drame. Ben non! Alex se fait amener à l'hôpital et on découvre qu'il est mort, mais comme pas complètement mort encore, mais comme oui, mais non, mais...
There's a big difference between mostly dead and all dead.
C'est comme juste assez pour qu'on déclare que son libre-arbitre est plus valide. De toute façon, il avait signé les papiers comme quoi, ben, son corps appartient au département de police. Et c'est là que quelqu'un dit...
Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology.
Ah non, c'est pas la bonne franchise. Ben, ça marche pareil. Et dans une procédure hautement expérimentale, pas creepy du tout, une bande de scientifiques de Omni Consumer Product, qui sont supposés être du bon monde, vont domper le cerveau et une partie de la face d'Alex Murphy dans un tank sur deux pattes qui veulent pousser comme l'avenir des forces de l'ordre. Ah ben oui, parce que si on me propose, moi, de donner des guns à des zombies robotisés pour faire la loi dans les rues de ma ville, ben moi, personnellement, je vote oui tout de suite, ça peut pas mal tourner.
I'd buy that for a dollar.
Anyway, le Robocop est comme une toute nouvelle personne, en fait, parce que la procédure est pas censée garder les souvenirs de la vie du propriétaire du cerveau qu'ils ont utilisé. Sérieusement, plus j'y pense, plus c'est creepy leur affaire. Puis, ben, la population réagit avec calme et sérénité face à ce nouvel agent de la paix. Mais ça donne que dans la compagnie Omni Consumer Product, il y a un autre département qui sont pas super emballés par Robocop parce que eux aussi ont un prototype similaire qu'ils veulent mettre en marché, qui est peut-être un petit peu overkill, mais qui utilise pas le cerveau du monde comme processeur. On touche ça de même, là, mais bon. On sait que leur prototype est super dangereux parce qu'il fait ça. Anecdote de même, le cascadeur qui se fait tirer a eu le record pendant un bout de temps du plus gros nombre de blood squibs en même temps, puis pendant qu'il sautait vers l'arrière, tout son rig a descendu, fait que ce gars-là a reçu l'équivalent de plusieurs coups de pied dans les chenolles pour notre divertissement. Bro, twisty, respect. Tout ça part en couille encore plus quand Robocop, qui commence à avoir des flashbacks de sa vie d'avant, même s'il n'était pas supposé, réalise que le dirigeant d'Apple, Omni Consumer Product, travaille avec Clarence Boddicker, le gars qui l'a buté au début du film. S'ensuit une série de confrontations pas pire violentes, jusqu'à ce que Robo Murphy finisse par faire essentiellement un deep throat à Clarence avant de partir dans le soleil couchant en jouant de l'harmonica jusqu'au garage le plus proche pour se faire réparer. Robocop, au final, c'est un genre de retelling de Frankenstein, mais au lieu d'être une histoire tragique à propos de la responsabilité d'un créateur versus sa créature, c'est une histoire de justice sauvage dans laquelle un gars se fait donner les moyens de se venger de son meurtrier, puis de prouver une bonne fois pour toutes que l'esprit humain est comme plus fort que ChatGPT. RoboCop a été tellement populaire à sa sortie que ça a spawné deux suites, pas tout à fait réussi, un remake complètement raté, mais surtout, surtout, une série animée pour enfants. Ah ben oui, parce qu'on va prendre le film le plus violent de l'an passé, puis on va faire un Saturday Morning Cartoon avec. Ça tient la route, c'est malade. Moi, j'attends mon cartoon de décadence. Me semble que ce serait fou.
Stéphane, es-tu content de ce que Guillaume nous a dit à propos de RoboCop?
Ben, c'est... comment ne pas être content? Je le répète, si quelqu'un a jamais vu un film et Guillaume vous en parle, vous allez avoir envie de voir le film.
Comme Bikaru Bunzui.
Bokaru Banzai. C'est quel ça? Trip étrange.
Ça, j'ai dit.
Ouais, moi aussi. Même moi, je l'ai merdé le titre.
Ouais.
Mais RoboCop, Steve. Quelle relation que tu as avec ce film-là?
En fait, j'ai vu ça quand j'étais jeune. J'ai beaucoup aimé. C'était tellement gore, sale, solide.
On n'était pas prêts à ça. Hein?
Non, pas du tout. Puis ils en font plus des films de même.
Non.
Ils sont trop frileux. Ils ont peur.
C'est ça. Ils ont essayé d'en refaire un remake de RoboCop, mais ils n'ont pas réussi. Puis ça vaut éviter ça à tout prix, je vous le dis.
Alors, ben, en fait, je ne suis pas d'accord. Le remake de RoboCop, c'est quand même un film divertissant. À partir du moment où tu le compares à RoboCop, là, ça devient un problème.
Mais est-ce que tu re-regarderais RoboCop avec Robert Kinnaman, le remake?
Je l'écouterais avec mon fils, oui.
Sérieux?
Oui, oui.
Oh, ouais.
Oh, oui. Pourquoi pas? Oui.
Ben, parce que c'est pas très bon.
Mais c'est correct. C'est pas. C'est comme le Total Recall qu'il avait refait.
Non, ça, c'est de la merde, Steve.
Il n'est pas si pire. Il n'est pas. Ouais, mais c'est pas de la merde.
Écoute-moi, là. Faut que je te dise de quoi par rapport à ça. Colin Farrell, en partant, ain't no Arnold.
C'est vrai. Mais quand même, c'est sûr que... Ouais, mais est-ce que c'est qui joue là-dedans? C'est
pas Sharon Stone.
Vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait installer des caméras de sécurité pour être certain que vous faites votre job. Stéphane, t'as échappé un escabeau en plein visage d'une pauvre vieille dame. En plus, t'as trouvé ça drôle. Ben, imagine-toi qu'elle a fait une plainte. Et elle me dit, et là je vais citer, « Moi, lorsque je magasine pour des vidéos cassettes, je ne reçois pas d'escabeau en pleine face. » Là, tu vas aller voir le répondeur, tu vas regarder les messages, on sait pas, c'est peut-être la police pour toi, la belle.
Bon, pas ça, hein?
C'est un accident.
Ben oui, mais ça arrive, tout le monde rire dans la face, par exemple.
Sois pas la police, s'il vous plaît.
Oui, c'est Jean-Guy. Ça vous tente-tu d'arrêter de dire mon nom là dans votre club vidéo? Là? Tout le monde parle de moi au marché aux puces. J'ai de l'air d'un vrai clown. Ça va faire.
Ben Jean-Guy, on
ramène tes films à terre. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais curé de niaiser que Jean-Guy, sérieusement. Là, on va te barrer.
On va ramener le Tenoilette, là, mais...
T'as même pas payé?
Non, plein d'affaires.
Avec tout ça, avec Jean-Guy, notre indignation, ses dettes pas payées, on allait oublier les retours.
Ben oui, les retours de la semaine. J'ai hâte de voir qui est venu chercher des bons films au Super Club Vidéo Gore. Mon Stéphane, mets-toi de l'huile, juju glue glue, pis ah ouais à terre. Couchez tapis.
Aïe aïe.
Il a craqué pour de vrai.
Ah.
Oh!
Hey, on a parlé de ça tantôt, justement. Mais ça, c'est une compile. Hein? Tantôt, c'est 28 Weeks Later, il était au programme.
Oui, le troisième de la série.
C'est le troisième?
Ben, le premier, c'est avec Sandra Bullock, c'est 28 jours.
Oh, Seigneur, j'espère que t'as pas inventé ça, là.
Non, mais il y a plein de mèmes, t'as jamais vu ça?
Non.
Ah,
c'est
Facebook.
Des mèmes, on dirait mon père qui parle de... Fait que là, mais 28 Days Later, par exemple, je veux qu'on en parle, Steve. Un film de Danny Boyle qui met en vedette Cillian Murphy, qui vient tout juste de gagner l'Oscar pour un film vraiment plate qui s'appelle Oppenheimer.
Pas vu.
Ah, oh, c'est long. C'est long.
Ouais.
Ouais, on dirait que j'étudiais quand je regardais ça. C'est un document historique. C'est 3 heures de dialogue, mais dans 28 Days Later, ain't no dialogue. Cillian Murphy vole la vedette en maudit là-dedans aussi.
Je dois faire mon mea culpa, Stéphane. Quand ils ont sorti les pubs, le marketing pour ce film-là, c'était le film de zombie le plus épeurant, genre des 10 dernières années, whatever. Avec un de mes amis, on a été au cinéma en pensant aller voir un film de zombie épeurant.
C'est désinfecté, hein? C'est pas des zombies comme tel.
Ouais, tu leur mets du Windex, t'es désinfecté. C'est pour ça que c'est des désinfectés.
Pas abandonné.
Et j'avais trouvé ça plate à mort parce que je m'attendais à un film de zombie de fucking action.
Genre. Ouais, ouais, ouais.
Fait que ben, j'avais pas embarqué.
C'est un genre, c'est un film qui est populaire, puis les goûts, ça se discute pas, Steve.
Ben ouais.
Même sais. Si t'en as pas.
Mmh. Ah ouais, va me chercher.
Y'en a d'autres.
Ben y'en a d'autres, va me chercher ça. Ah!
Ça va mieux de même.
Oh, ça j'aime ça.
Ouais, moi aussi, avec le grand Julian Sands, la collection des Warlocks.
RIP, Julian Sands, qui...
L'année passée.
Quel accident conne quand on y pense, mais bon, anyway. As-tu vu tous les Warlocks?
J'ai pas vu tous, j'ai vu le premier Warlock, j'ai vraiment trouvé ça très bon.
J'aime beaucoup les Warlocks, même le troisième, même si c'est pas Julian Sands qui joue dedans, je me rappelle pas du nom de l'acteur, je peux vous le dire tout de suite de même,
ou peut-être
du temps. C'est quoi son nom, tu veux voir, puis c'est quoi? J'ai beaucoup aimé aussi le troisième film. Je trouve que c'est une trilogie vraiment le fun à regarder.
Ah, je l'ai, son nom, c'est Audio Commentary.
Un peu cheesy, un mais italien. Quand même...
Ah non, c'est le 2, ça.
C'est le 2. Ouais, c'est dans le 2, Audio Commentary.
Ouais.
Je suis sûr que les gens, je suis sûr que nos clients, ils ont déjà vu les Warlocks, puis qu'ils ont aimé les Warlocks. C'est le fun.
Au moins une heure.
Les films des années 90, c'est toujours le
fun. Va chercher l'autre, Steve.
Je vais aller chercher l'autre.
Les genoux.
Je reviens. Et je remonte avec The Heretics. Ça, c'est un film de Black Fawn Film, réalisé par Chad Archibald. Black Fawn Film, c'est une compagnie en Ontario qui font plein de films. Et tous leurs films, j'ai toujours eu l'impression des fois qu'il manquait un petit quelque chose au film. T'sais, tu regardes le film, ah, c'était pas bien, mais il manquait un petit quelque chose. Et je l'ai trouvé dans ce film-là. J'ai adoré The Heretics.
La pochette est très cool. Moi, Black Fawn Films, le seul film que j'ai vu, c'est Vicious Fun.
Oui.
Que j'ai trouvé correct, mais ouais. Sans plus, il manquait quelque chose comme ça.
Ouais, mais celui-là, il a été chercher la coche au-dessus des autres. Beaucoup aimé ça. Si vous venez au Requiem, ils ont toujours une table, vous allez pouvoir vous le procurer pour pas cher.
Hey, il est dédicacé en plus.
Ben oui, cool. Parce que c'est des amis.
Steve.
Moi, j'ai brossé avec ces gars-là.
En parlant de brosser, on arrive à la fin de notre corps de travail, déjà. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci à nos collaborateurs. Merci à Paul, à Christophe, entre autres. Guillaume, pour ton hommage à Robocop. C'est ma fête.
Daniel,
comme... Ben, Daniel, je le nomme plus parce qu'il fait partie des meubles.
Ah.
Il y a Stéphane, Steve, Daniel. Puis les autres.
Dites-les pas.
On se revoit dans deux semaines.